Bonjour à tous, joyeux contribuables, charmants mammifères. Bienvenue donc pour cette première table ronde dans l'espace Chaillol aujourd'hui sur donc L'homme qui rétrécit et autres films qui ont changé notre perception du réel. Pour en discuter autour de moi, Thomas Day, qui est donc écrivain, bien connu ici. On va citer notamment parmi quantité de nouvelles, une douzaine de romans, La Voix du Sabre, L'Instinct de l'Écarisseur, Le Trôle d'Ébène, Du sel sous les paupières, lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire 2013. Et son dernier ouvrage, 7 secondes pour devenir un aigle, est un recueil de nouvelles aux éditions du Bélial, où il explore le rapport de l'homme à la nature à travers 6 plongées dans les marges du monde, de l'Asie à l'Amérique du Nord, en passant par l'Australie. Qui nous dira si effectivement certains films ont changé sa perception du réel ou pas. Francesco Verso, qui est ici, auteur de Idol, récompensé du prix Urania, de Bruce, récompensé du prix Odyssée et du meilleur roman de science-fiction italienne. Ses histoires sont apparues dans Robo, iComics, Futuri, International SF, Chicago Quarterly Review. Il a aussi fait l'objet de représentations théâtrales qui ont été adaptées aussi à des projets multimédia dans le cas de Bruce. Et il est le créateur du label Future Fiction, qui publie d'une manière générale les meilleurs auteurs de fiction spéculative de partout dans le monde et qui est en soi un militant de la défense de la culture et des auteurs européens. Il nous en parlera. À ma gauche, Daryl Gregory, auteur de L'éducation de Stony Mayo, publié aux éditions Le Bélial en 2014, finaliste du Grand Prix de l'Imaginaire en 2015. Ils ont aussi récemment publié « Nous allons tous très bien, merci », qui a été nominé pour de grands prix littéraires, hein, Le Nebula, Sturgeon, Locust, Jackson, et qui est en cours d'adaptation en série télévisée par Wes Craven. Son premier roman, Pandemonium, avait été récompensé du prix Crawford, nominé au prix World Fantasy, et The Devil's Alphabet a remporté le prix israélien, Geffen, pour le meilleur roman traduit. Et dans le domaine de la BD, il est davantage connu pour avoir écrit la série Planet of the Apes, et ses derniers romans sont deux aventures lovecraftiennes, nommées Harrison Squared et After Party, nominées au prix Campbell. Et à ma gauche, Pierre Bordage, je vais reprendre l'affiche parce que c'est plus facile pour le prendre. L'auteur français, un des auteurs les plus prolifiques de sa génération, qui a officié en tant que président plus de 10 ans pour le festival. Auteur de plus de 50 romans, de recueils de nouvelles, distingué par de nombreux prix, Grand Prix de l'Imaginaire, Prix Paul Féval de littérature populaire, Prix Tour Eiffel. Comment citer et dans le cycle, ça a été le cas pour moi, donc autant le dire, qui l'ont propulsé sur le devant de la scène, Les Guerriers du Silence, hein, suivi d'une cascade de romans aussi énorme, de la série Roel à Wang. Et son dernier roman, donc paru aux Atalantes, est intitulé Les Dames Blanches. Donc je vais me tourner vers les gens autour de moi, et peut-être tout d'abord vers mon voisin le plus direct, avec qui on en parlait justement, et qui a revu L'Homme qui rétrécit, pour pouvoir être précis, s'est préparé à cette table ronde, et donc savoir s'il y a effectivement des films de science-fiction qui ont changé son point de vue du réel.
Ça marche. Oui. La science-fiction, pour moi, mais comme pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est très lié à l'enfance. À la découverte de ce genre quand j'étais enfant, j'avais 12-13 ans et même un peu avant. Et donc quand j'avais 12-13 ans, il y a des films qui m'ont vraiment, vraiment retourné. La chasse du comte Zaroff, King Kong, peut-être pas L'Homme qui rétrécit, mais Tarantula. On regardait tout ça à la dernière séance, présentée par Eddie Mitchell. Il y avait d'autres films de ce genre. Et c'est vrai que c'était une époque d'effets spéciaux désuets, de vieux films qu'on revoyait, et puis évidemment... Vu que je suis de 71, ben j'ai grandi avec Star Wars, Les Aventuriers de l'Arche Perdue et tous ces trucs-là qui sont arrivés derrière. Je suis vraiment un grand amateur de cinéma, je vois beaucoup, beaucoup de films et beaucoup de séries télé. Et je trouve aujourd'hui, j'ai 44 ans, il n'y a rien dans la science-fiction au cinéma qui me retourne. Il n'y a rien qui m'intéresse grandement. Les films de super-héros sont une espèce de propagande américaine qui me fatigue énormément. Et je trouve plus mon plaisir là-dedans. Et là, j'ai revu L'Homme qui rétrécit, justement, dont on parlait. Je l'ai acheté en DVD, voilà, j'ai mis la galette. Et au bout de 10 minutes, j'ai éclaté de rire parce que le film commence. Le mari et sa femme sont sur un bateau et le mari demande à sa femme, va me chercher une bière, s'il te plaît. Donc évidemment, elle se lève, elle va chercher une bière, elle descend dans le bateau pour chercher une bière. Et puis, il y a une brume qui apparaît, qui le recouvre et il est muté, il va rétrécir à la suite de ça. Et elle, ça ne lui arrivera pas parce qu'elle est chercher une bière. Et la chose qui m'a le plus marqué dans le film, c'est pas tellement qu'il rétrécit ou c'est pas tellement qu'il est assis dans un fauteuil gigantesque, c'est la place de sa femme dans cette histoire, la place de son épouse et la espèce de misogynie des années 50 absolument incroyable qui est filée pendant tout le film, presque jusqu'à la fin. Et voilà, c'est mon regard sur ce film-là et ça ne me fait pas rêver. Alors le seul film qui m'a vraiment changé le rapport que je pouvais avoir à la réalité ou du moins qui m'a fait découvrir quelque chose que je n'avais pas du tout idée, dont je n'avais pas du tout idée quand j'étais enfant, c'était Le Voyage Fantastique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film où des gens sont réduits et descendent dans un corps humain pour réparer, je ne sais plus, c'est une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça, un caillou dans le cerveau. Et bon, maintenant, je pense que je serais plus intéressé par Raquel Welch que par les gens qui sont diminués. Mais quand vous avez 12, 13 ans, c'est vrai que de voir des globules blancs, même s'ils sont mal faits, des globules rouges, même s'ils sont mal faits, c'était assez génial. Mais voilà, bon, aujourd'hui, le cinéma de science-fiction, il propose 10 fois moins, 20 fois moins que n'importe quel bon livre de science-fiction. C'est assez décevant, voire consternant.
Merci. Francesco, des films qui ont changé
la
structure du réel.
Yeah. First of all, I want to thank the organization because it's the first time I go to an international science fiction conference. So Ugo Bellagamba in particular, I really thank you. This is one of the best conference I've ever been to. So keep going on. It's really great. So to the your question, there are two or three really important movies that changed my perception. The first one when I was young was Dune. I'm 42, so I was not so young when I saw it, but that changed one kind of perception, time and space. Then after some years, there was a movie that I particularly appreciated for the approach to science fiction for me, which is Inception by Christopher Nolan, which in a way got into the inner space and bent the perception we have of reality, of dreams, of how these things are connected. And lately, I think there is still something that I do appreciate in science fiction, even though it maybe doesn't come from the Hollywood movies, but it's like Black Mirror, the UK series, which is creating a new drama for the new millennium, taking into account the development of communication and the new technology. It's really, really interesting, deep, and it strikes me all the time that I see it. And I'm very happy that Netflix is going to produce 12 more episodes over the next year, I think. So there's still things that are possible to do in the field of visual science fiction. And I can mention another one, which is probably, it's The Congress. I guess it's a French and Hebrew Jewish Hebrew production from Israel, I guess. It's from the Congress of Futurologists by Stanislav Lem. Very good. And that's also very good in terms of the way the story is told, because half of the movie is a comic, and a comic. Very, very, very interesting how they made it.
On reviendra sur le congrès un peu plus tard. Daryl, any movie that changed your perception of real?
I just want to say, as the American on the panel, we make great propaganda. It's the loudest, most colorful propaganda you could want. It's what we're good at. I also grew up watching a lot of TV, and in the city I grew up in, there was a channel that replayed the same movies over and over again. So I watched all the Planet of the Apes movies maybe 15 times. They just kept coming on and coming on. And so later in my life, when they let me write a Planet of the Apes comic, I was so thrilled they would let me play in that universe again and mess with it. So Planet of the Apes was an early a movie for me that bent my young reality a little bit. There's especially a scene in Beneath the Planet of the Apes where the cult members pull off their faces. And there's never been a more terrifying moment for a 10-year-old to watch a room full of people pull off their faces and worship a missile. I grew up watching a lot of science fiction movies and a lot of old science fiction movies because they were cheap, so they could run them over and over again. I think the one that most changed my, this is a weird choice, but something that really changed my personal sense of reality was when I was 12 years old, I saw the movie Young Frankenstein in the theaters. And what that did to my brain was interesting because it took all the look of old horror movies, the exact same sets, the same costumes, the same props, even the same some of the same music, and turned that toward comedy. And it was the first time I saw, as a 12-year-old, that perfect inversion of taking something that was supposed to be terrifying and making it hilarious. But at the same time, like, there were movies I grew up with, like, called Children of the Corn, which I don't know if anyone's seen that, but it, that one was terrifying to me because everyone was being so nice and pleasant, but underneath the covers there was something terrifying going on. I had the same feeling much later when I saw Blue Velvet. It's like this beautiful surface, and right underneath the surface is this terrifying thing going on. And I've been addicted to those kind of movies, you know, ever since.
Et j'ai posé la même question à Pierre.
Oui, alors, il y a eu plusieurs films qui ont marqué ma vie, mon imaginaire en tout cas. Le premier, c'est à l'âge de 10 ans, lorsque j'ai vu au ciné-club du petit séminaire où j'étais, Le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise, qui est resté dans ma mémoire, mais de façon indélébile, au point que je me souvenais des paroles que dit le robot en permanence ou que l'extraterrestre donne un message à donner au robot, et je me suis toujours souvenu de ce qu'on dit au robot. Et ça m'a fasciné de voir ça, un robot qui faisait des plis en marchant, c'est assez original. Évidemment, quand on regarde après, c'est évidemment toute cette, il y a une sorte de grande naïveté dans le film au niveau des effets spéciaux et tout ça, mais ça fonctionne parce qu'il y a énormément de poésie. Ce qui manque un peu, là, Gilles faisait allusion au blockbuster américain de super-héros, où ça manque complètement de poésie maintenant. Ça, c'est le premier film qui m'a marqué. Au point que j'ai écrit un ouvrage qui rend hommage au film hein, pour le titre, qui s'appelle « Le jour où la guerre s'arrêta ». C'était vraiment un hommage pour moi à ce film-là. Le deuxième film qui m'est marqué, après je passe tous les délires des années 70, qui étaient intéressants pour moi, comme les films comme « Zardoz » de Borman, « L'âge de cristal », enfin ce genre de choses, qui sont un peu des expériences cinématographiques sous certaines substances, à mon avis, un peu hallucinogènes. Mais c'était très intéressant. Enfin, il y avait vraiment des visions assez étonnantes. Sean Connery en slip dans Zardoz, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Dans un masque. Bon, c'était un peu assez improbable. Mais bon, à l'époque, il y avait vraiment. On osait un peu tout au niveau et de la narration et de l'image. Et puis, sont arrivés les années 60, enfin, la fin des années 70, et évidemment, il y a Star Wars qui a marqué vraiment mon esprit. Parce que d'un seul coup, on découvrait une esthétique tout à fait nouvelle dans le cinéma de science-fiction. Star Wars a vraiment changé les choses, je pense, à un moment. Et moi, quand j'ai vu Star Wars donc en 77, j'étais absolument fasciné. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Ah oui, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux faire. Le dépaysement, le voyage, l'espèce de grande aventure initiatique, qui finalement est de la fantasy, hein, soyons clairs. Hein, de la science-fiction, il y a juste les vaisseaux qui font un peu trop de bruit, à mon avis, dans l'espace. Mais, donc ça m'a beaucoup marqué. Les suites, la suite de le tome 2, enfin le volume 2 de Star Wars, c'est-à-dire l'Empire contre-attaque, me semble être le meilleur de la série. Enfin, pour moi, je l'ai ressenti comme ça, parce qu'il y a vraiment le côté initiatique, l'initiation à la force, qui est là encore d'une grande poésie. Et ça m'a marqué. Et à partir du 3, je pense que ça décline complètement parce qu'on a l'impression qu'il veut vendre des Ewoks en permanence, en poupée, et donc ça perd complètement sa force, je pense. Et évidemment, la série d'après est pour moi catastrophique. Alors, Dune, vous avez parlé de Dune tout à l'heure, de David Lynch, je crois. Alors, moi, j'étais déçu par Dune parce que j'adorais le bouquin Dune et que, évidemment, lorsqu'on adore un livre, l'adaptation nous paraît forcément mauvaise parce qu'elle. Elle entre en collision avec notre propre imaginaire, puisque le livre suscite notre propre imaginaire. Donc, ça, c'était une déception. Et ensuite, je trouve Gilles un peu sévère par rapport au cinéma américain, parce qu'il y a quand même des films qui sont intéressants, qui sont plutôt indépendants en dehors des studios, comme Les Fils de l'Homme de Cuaron, comme.
Les Fils de l'Homme, c'est pas américain. Hein.
Ouais, enfin, c'est quand même des budgets américains.
Non, c'est anglais.
Enfin, et puis il y a aussi Bienvenue à Gattaca, ce genre de films qui sont quand même assez ambitieux, qui sont là pour permettre de la réflexion. Et je suis d'accord avec toi sur l'esthétique qui me fatigue des super-héros. Je ne regarde plus des films de super-héros parce que ça ne m'intéresse plus, quoi, en gros. C'est toujours les mêmes schémas, c'est plus intéressant. Donc effectivement, il est possible encore de faire des films de science-fiction qui incitent à la réflexion. J'ai participé à deux projets en France. Alors, parlons de la France, parce que là, c'est très compliqué de faire des ouvrages, des films de science-fiction en France. C'est pour des raisons de budget, pour des raisons de frilosité des producteurs. Voilà. J'adore le cinéma aussi, vraiment. Je suis un fan absolu des westerns. Je regarde énormément de westerns et peut-être que c'est ça qui m'a plu dans Star Wars finalement, c'est que c'est le côté western qui n'a du film.
Mais je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qu'il y ait des films de science-fiction qui nous fassent réfléchir, qui soient intéressants et tout, il y en a, mais des films qui changent notre façon de voir le monde ou qui, je sais pas comment dire, qui changent notre perception de la réalité ou notre perception, par exemple, de la foi ou de ce qu'on ressent vis-à-vis de la planète. Il y en a pas tellement. Et en fait, moi, mon problème, c'est que les films qui me bouleversent le plus, mon problème, ce qui n'est pas un problème, ça va être les premiers films de Terrence Malick, Les Moissons du Ciel, ça va être Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, ça va être... J'adore Apocalypse Now, la version longue de Francis Ford Coppola, qui est une espèce de truc insurpassable. Et donc, en science-fiction, je ne trouve pas ça. Je vois rien qui me propose un film aussi syncrétique qui était de fois en Amérique, qui parle de l'amour, de la trahison, de la politique, de l'argent, de la folie, qui parle de tout ça en un seul film, de l'addiction, de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, de ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Et il y a une ambition de narration dans Été une fois en Amérique et un souffle qu'on ne retrouve pas en science-fiction. Il n'y a rien... Même le Dune de David Lynch, qui est vraiment le truc qui pourrait se rapprocher le plus de ça, le plus syncrétique, on n'arrive pas à ce que peut faire Sergio Leone, on n'arrive pas à ce que peut faire certains cinéastes russes comme Eisenstein. Enfin, j'ai revu il n'y a pas longtemps Alexandre Nevsky. C'est complètement, c'est saisissant. Moi, je trouve que c'est un film hallucinant. Et je ne trouve pas ça en science-fiction, et surtout pas, je ne le trouve pas maintenant. Alors, tu as raison de parler des indépendants, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes chez les indépendants. Another Earth, enfin, il y a eu plein de trucs qui étaient intéressants, mais bon, là, ils sont limités un peu par leurs problèmes de budget. Ils ont pas toujours ils n'utilisent pas toujours à bon escient des budgets limités, ils n'arrivent pas à contourner la problématique du budget. Mais ça reste des films intéressants, c'est pas des trucs où tu es à genoux et tu te dis, comme quand tu sors de La Lune Rouge de Terrence Malick, où tu te dis, putain, j'ai vu un chef-d'œuvre, ce truc m'a mis à genoux. Et je ne regarderai plus jamais les enfants jouer dans la nature, dans la jungle, de la même façon aujourd'hui qu'hier. Donc ça me manque dans ce cinéma-là, je pense. En plus, je suis très critique vis-à-vis de la science-fiction parce que je le trouve tout le temps en retard. On parlait de Gattaca. Pour moi, Gattaca, c'est un très bon film, ce n'est pas le problème. Mais les problématiques de Gattaca, génétique et autres, ça fait juste 40 ans que la science-fiction en parlait avant Gattaca. Et la science-fiction au cinéma, elle n'est pas en avance. La pointe de la science-fiction aujourd'hui, bon, c'est probablement un auteur qui s'appelle Greg Egan, qui est australien. Je ne retrouve pas dans le cinéma des choses qui m'envoient aussi loin, me projettent aussi loin que les réflexions philosophiques de Greg Egan. Et ça me déçoit parce que si je veux aller voir de la science-fiction au cinéma, je veux aussi voir des idées de science-fiction. Par exemple, vous parliez d'Inception. Bon, Inception, pour moi, c'est vraiment le film raté par excellence, le désastre total. C'est une idée assez intéressante. Mais il faut que les gens aillent manger du popcorn, il faut qu'ils boivent du whisky, il faut qu'ils boivent plutôt du Coca-Cola. Du whisky chez eux, mais du Coca-Cola. Donc on leur met une espèce de troisième scène avec à la James Bond, avec des fusillades partout, qui est ridicule et qui rend le film complètement boursouflé et beaucoup trop long. Et ça gâche complètement toutes les bonnes idées qu'il y avait autour de ce film sur le temps du rêve, le temps réel vis-à-vis du temps du rêve qui est plus lent, etc. etc. Je suis déçu régulièrement par cette volonté de transformer tout sujet de science-fiction en sujet de fusillade et d'explosion. C'est la science-fiction d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de fusillade, c'est pas de la science-fiction. Bah, c'est un peu dommage. Vous regardez Blade Runner, il y a très peu d'explosions, il y a très peu de fusillades, et c'est probablement le plus grand film de science-fiction, ou un des plus grands films de science-fiction qui a été tourné.
Well, I don't want to start an issue, but I guess you are taking. If you want to criticize something, you can always do it. If you think that one explosion will just ruin and spoil the whole movie, yes, you're right. But the point here is that the issue is the how does a movie change your perception of reality? So you have to focus on this single theme. Otherwise, you can destroy everything. You can say that every plot has some hole. You can say that every character has a failure. You can say that every single piece there is no unique and perfect masterpiece. So if you want to go and reduce everything to one single thing, all right, you can do it. But I guess that there are still things that move us, still things. Of course, in Hollywood, this is going to disappear or is already disappeared since a long time. I agree with you. I don't watch Hollywood movies. I just think that somewhere there are pieces of good thoughts made correctly. The visual impact of Inception was striking for me. Even though I do agree with you with all the issues about the plot, the length, some things that are a kind of compromise for having that budget. That's the point. To raise that money, you need to negotiate on other things. So if you want to see that, you go and pay the price for this negotiation, for this compromise. If you want to stick to a low-budget movie that probably is better on the idea, on the concept, on other things, then you have a choice to do that.
I do think it's possible to still make good movies, but and within that budget, two that come to mind, Primer, ultra-low-budget time travel movie that really is completely smart. If you're a science fiction reader, you realize they're being very serious about how they're treating time travel and how they're thinking about it. And the movie keeps changing in your head as you realize you're seeing scenes replay from another point of view or from another timeline over and over again. It's a really thinking person's movie, and I think someone dies, but no one gets shot. So it's not a perfect movie then. Someone needs to be shot if you're an American. Source Code is a great thinking person's movie. Friends of mine hate to go to science fiction movies with me because usually I start groaning at some logic error almost immediately, and then I complain after the movie and I spoil it for everyone. But Source Code is a movie that gets smarter the longer you think about it. Half of the audience, I think, was confused by that movie, like what timeline was he in, what was happening. But the more you think about that movie, the smarter it gets. But I do think that even in the most commercial fiction, most commercial movies, these people are artists struggling to make good movies. So Joss Whedon wants to make great movies. He is constrained by the budget, by the system of making movies. Bryan Singer wants to make good movies. There are sometimes moments of poetry, like in X-Men: Days of Future Past. There's a scene that's almost pure poetry, which is the Quicksilver scene, where a speedster slows down time and he puts on his headphones, plays "Time in a Bottle," and it's the most beautiful scene. It's an action scene done in slow motion, and it's so beautiful. I've watched that over and over again just to watch. I can skip over a lot of the movie, but I go back to that scene over and over again. So people are trying to make thinking person's movies, but the system does work against it.
Pour rebondir aussi sur ce qu'il disait Gilles, ça dépend ce que l'on cherche dans un film, en fait. Après, si on parle des films hors genre science-fiction, bien sûr que mes références, ce n'est pas forcément des films de science-fiction. C'est les 7 samouraïs de Kurosawa, ça va être Little Big Man d'Arthur Penn, ce genre de choses. Et je m'aperçois que ce que j'aime et ce qui m'anime, moi, dans le cinéma, c'est une sorte de vision épique des choses, c'est-à-dire qui deviennent archétypales. J'ai l'impression que la science-fiction échappe justement, peut échapper à... enfin, ce que tu, apparemment, ce que tu cherchais beaucoup, c'était la critique sociale, ce genre de choses, peut échapper à ça pour devenir quelque chose de beaucoup plus universel, finalement. Et je pense que le film touche quand il devient totalement universel. Un de mes films favoris, qui est un film très guimauve, s'appelle La vie est belle de Frank Capra. J'adore ça parce que quand je regarde ce film, j'ai la pêche après. Ça vraiment remue quelque chose au plus profond de moi qui me dit bah, je suis un être humain, c'est une chance terrible d'être un être humain. Quoi. Donc j'ai l'impression que je cherche ça dans les films, qui serait quelque chose qui me remue profondément. Et je pense que c'est dans l'ordre de l'archétype, voire de la mythologie. Alors peut-être que les films de super-héros sont des tentations ou des tentatives de recréer de la mythologie moderne, de proposer de la mythologie, mais effectivement c'est un peu gâché par tous les effets spéciaux, parce que les gens veulent mettre des effets spéciaux, parce que la science-fiction égale les effets spéciaux. Mais je pense qu'il y a quelque chose enfin, une sorte de recherche confuse de proposer des archétypes pour qu'il y ait des modélisations et des identifications qui permettent peut-être d'avoir des choses, une vision différente, quoi.
Je crois qu'il y a, de toute façon, quand on aborde la question en fait de l'intérêt du cinéma de science-fiction par rapport à la littérature, on se heurte toujours un peu au même problème, qui est que la science-fiction a aussi un côté exigeant en termes, soit forcément pas forcément en termes cognitifs dans le fait qu'elle fait réfléchir, mais dans sa mise en place ou autre. Quand on veut mettre une histoire sur une autre planète dans un environnement totalement différent. En écriture, c'est simplement un choix. Au cinéma, tout décalage par rapport au réel a un coût. Et puis, il y a une autre chose sur ce que vous disiez, je veux dire, entre le fait de plaire au plus grand nombre, d'être produit ou touché à l'universel, le cinéma de SF est toujours, effectivement, je vais prendre l'exemple de Brazil, parce qu'on parle d'un héritier de Frank Capra, de La vie est belle, on parle d'un film qui, moi, me touche particulièrement, où j'ai la même, selon moi, Guillaume est un des rares qui, à l'image, me donne suffisamment à réfléchir. En plus qui me divertit et qui change ma perception du monde. Mais quand les producteurs voient le film de Gilliam et donc lui interdisent de le sortir et décident de le remonter en 1h30 en un film qui a une happy end, qui est juste une histoire d'amour, le discours est très très clair. Ils lui disent ce film-là a tout pour devenir un film culte, mais nous on veut pas un film culte qui devienne une référence pour un petit nombre de spectateurs et qui éventuellement transmette la bonne parole aux autres. On veut un film qui soit aimé par le plus grand nombre. Et le cinéma de SF, de toute façon, traîne ça, qui est cette idée que ça va coûter cher, mais le producteur veut un retour sur investissement. Donc, mettre beaucoup d'argent pour, finalement, provoquer un choc cognitif ou un sense of wonder qui va ne toucher, finalement, qu'un petit nombre de personnes, c'est quelque chose qui est très peu soluble dans l'industrie au cinéma. Et j'ai que tu t'es confronté à toi à ça en France, notamment, peut-être brièvement, je veux dire, est-ce que cette problématique-là, je veux dire, t'as été heurtée ou a pu affecter la manière dont t'écrivais pour le cinéma ?
Oui, parce que je ne sais pas si Marc Caro est là, mais c'était donc avec le projet avec Marc Caro. Le producteur a dit, je veux quelque chose de faisable. Connaissant l'esprit aventureux de Marc dans le cinéma, il dit, je veux quelque chose, une histoire, quoi, quelque chose de plausible et avec un début, une fin, etc. Donc on a travaillé le scénario dans ce sens-là. Je veux aussi, a dit le producteur, si possible, un lieu unique qui va limiter les coûts des effets spéciaux. Donc on a travaillé dans un lieu unique, dans une station spatiale, etc. Malgré tout ça, malgré tous les efforts qu'on a faits, je ne parle même pas des sacrifices sur le budget, enfin sur les droits et tout ça, on était tous d'accord pour essayer de monter un film de science-fiction en France. Malgré tout ça, il y a eu des problèmes de production, c'est-à-dire que c'était toujours trop cher de faire retourner la scène. C'est la fin qu'on avait prévue, c'était trop cher de la faire. Donc, du coup, le film perd un peu son énergie parce qu'il faut rebricoler derrière, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Faudrait que Marc en parle mieux que moi. Moi, j'étais que scénariste, mais c'était extrêmement compliqué de monter un film de science-fiction en France. Et puis, j'ai eu l'expérience avec Eden Log aussi, où c'est des budgets style 1,8 million, quoi, ce qui est dérisoire. Et que Franck Vessier l'a tourné en 3 semaines dans une champignonnière en région parisienne, qui donne une esthétique particulière. C'est tourné à l'arrache, quoi. Tout est toujours fait à l'arrache. Et en plus, on a des combinaisons de salles quand les films sortent de 100 salles et ça dure 2 jours. Et après, on est viré. Et donc, le film n'a aucune chance de rencontrer son public. Puis, après, il y a les critiques de l'intelligentsia. Par exemple, dans Télérama, il y a un critique qui a dit. Ces films comme Eden Log, Dante 01, il y avait Chrysalide à l'époque, montrent avec certitude que la France est incompatible avec le cinéma de science-fiction. Quoi. Voilà, donc c'était réglé. En France, on ne pouvait, on a quand même Méliès, hein, enfin, je veux dire, on a quand même l'inventeur des effets spéciaux et tout ça. En France, on ne peut pas faire de films de science-fiction parce que nous, nous avons une culture qui est incompatible avec ça, ce qui rejoint d'ailleurs finalement le mépris de la littérature de genre dans le milieu germano-pratin culturel chic.
Oui, quand même. Enfin, culturellement, on a quand même, non seulement on l'a inventé, quand même, non seulement on a quand même le praticien qui a inventé tous les effets spéciaux appliqués par tout le cinéma, en gros, jusqu'à 1990, hein, et qui a réussi à inventer tout ça avant 1910. Le truc, c'est qu'en France, on a tendance à avoir oublié la dernière fois que quelqu'un est venu nous montrer à quel point Méliès était fort, était magique, bah, c'est Scorsese, quand il vient faire Hugo Cabret, et qui vient nous donner une leçon, en fait, et nous rappeler à quel point, je veux dire, le cinéma français a compté. Et puis, n'oublions pas des choses comme Je t'aime d'Alain René, dont le remake Eternal Sunshine de Spotless Mind est moins un film que je trouve puissant. Après, on peut en discuter, mais c'est un film de scénario. Enfin, oui, on a de quoi quand même être assez fiers. Et on évoquait hier l'impact qu'a eu Métal Hurlant et son influence ensuite même sur la science-fiction américaine. L'impact de Moebius sur l'esthétique de la science-fiction américaine dans les années 80 est absolument énorme. Enfin, comme très très souvent, et on dit ça à Nantes, à la ville qui a peut-être le plus conscience de la qualité de son histoire culturelle liée à la science-fiction, on a tendance à jamais être prophète en son pays et finalement être connu qu'ailleurs. Il y a des choses qui se dégagent, c'est que je suis assez d'accord avec Francesco qu'actuellement, j'ai personnellement plus confiance dans le format télé. Et là, je suis assez d'accord avec Thomas, je me dis que dans le format du cinéma, j'ai du mal à imaginer comment en 2 heures, avec les contraintes budgétaires ou autres, on va réussir à s'approcher de quelque chose qui se rapproche de l'expérience d'un lecteur, sauf à avoir des cinéastes qui savent faire réfléchir à l'image. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une question de génération. On n'a pas évoqué 2001, parce qu'on l'évoque toujours, mais il y a cette puissance-là dans 2001. Et en fait, j'ai plusieurs axes là-dessus. J'ai envie de revenir un petit peu sur 2001 et vous demander ce que vous en pensez, parce que j'ai pas envie de l'oublier, que pour moi, c'est quand même un film qui, de par son contexte ou sa puissance, a fait quelque chose qui va au-delà et qui est vraiment de l'ordre de la perception du réel sur un plus grand nombre et qui en plus a touché au-delà de ceux qui sont traditionnellement des amateurs du genre. C'est aussi une de ses puissances. Et après, j'aimerais bien revenir aussi avec Francesco donc, sur cette question du format télé, notamment avec Black Mirror de Charlie Brooker. Et après, on parlera des expérimentations qu'il a fait en fait pour créer des effets avec le multimédia, le théâtre, c'est-à-dire entre la lecture et le cinéma. Je commence simplement sur cette question de 2001. Déjà, je vous demande ce que vous en pensez. 2001, qui est un de mes films préférés, est quand même aussi un des films qui a endormi le plus de public sur la planète. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont jamais allés au-delà du premier quart d'heure. Voilà, simplement, parce que vous l'avez laissé de côté, ça m'a un peu marqué. Peut-être que c'est mon côté aussi historien du cinéma, ça m'a étonné.
C'est un oubli, hein.
Non, mais je veux dire, il y a aussi peut-être quelque chose de générationnel. Je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Parce que la chose que vous avez mis en évidence aussi au début, c'est que finalement, c'était moins les films eux-mêmes qui vous avaient marqué, puisque c'est des films qui vous ont marqué plutôt dans l'enfance, et que, en fait, comme on dit très souvent, un des intérêts du film de science-fiction, de l'adaptation, même quand elle est ratée, c'est éventuellement d'amener des gens vers, par même la frustration de ce qui n'est pas fait dans le film, de les amener vers les bouquins originaux. Ça a été mon cas pour Dune, moi, notamment. Ma question est tellement peu claire que vous ne savez pas y répondre, hein, c'est ça.
Well, you're right about it putting some people to sleep. It's two movies. You know, it's two movies sort of pasted together. It seems like it becomes the cosmic part sort of kicks in for the second half. The first half is sort of a high-tech murder mystery with the astronauts versus Hal. Yeah, for me, seeing that movie for the first time in high school it did sort of change my sense of what science fiction movies could be like. The pacing is so different from current movies. When I watch it now, the time they will take, even that long sequence when they're taking the shuttle up to the space station. And the Blue Danube waltz is playing. It's so beautiful. And the fact that Kubrick took enough time to give you that sense of wonder, the sense of grandeur, like we are reaching space, that I think colored, you still see that in movies like Gravity, where all of a sudden they'll just, let either silence and let you just see the grandeur of slowly moving huge objects in space still gets to me. I thought they did that really well in Gravity. But yeah, that second half of the movie, I still don't know what to make of it or what to make of the space baby. I like it, but I don't know what to make of it.
Si vous avez pas envie de réagir sur 2001, c'est pas grave, hein.
Well, no, I still ask myself what that obelisk stands for. I mean, I still can't understand after 30 years. That obelisk is just too much for me. No, I'm joking. But anyway, it puts a very interesting question. It is a masterpiece. How can you forget all? You know, it's the biggest enemy, character, one of the biggest characters in science fiction. So, but when you put together two masters, you have, you know, very high probability that the result is going to be very good. It's difficult, it's challenging, it's probably not for everybody. I mean, it has so many levels. You can approach it as the adventure of man. You can approach it as a science fiction. You can approach it as a really psychological fight. You can approach it as a kind of post-human approach to science fiction. And so that is one of those, you know, big stones in science fiction that it remains forever. And the way they try to approach again with Interstellar, I think it's not a success, you know.
Après, je me rends compte en fait en posant mes questions que c'est vrai que je suis entouré d'écrivains. Et que ça change effectivement. Si on parle de changement de perception du réel dans 2001 ou de réfléchir avec les images, quand ils l'ont ressorti avec la volonté de Kubrick, on est au cinéma pendant 5 minutes dans le noir avec juste la musique dans le montage. Et c'est là qu'il a son génie de faire réfléchir, c'est qu'on est effectivement simplement avec la musique dans le noir. Au bout d'un moment, la lumière se lève et en fait, il met le spectateur dans un état particulier, effectivement, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça. Et au bout de 5 minutes, on s'éveille à la lumière, on perce un peu les yeux et on s'éveille en fait à l'écran en même temps qu'on assiste à l'éveil de l'humanité. Et le fait qu'il s'apesantisse, la question du rythme chez Kubrick est absolument fondamentale. Le fait de s'apesantir, il y a cette idée aussi de forcer ou de conduire le spectateur à réfléchir et à faire sens de ce qu'il est en train de regarder. Et je suis assez d'accord pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup des cinéastes qui ont la puissance de faire réfléchir de cette manière-là et que c'est fondamentalement différent de ce qu'on va faire en littérature. Gravity, pour moi, est un autre bon exemple. Parce que là, c'est pareil. On a une expérience en tant que spectateur qui est, pour moi, assez unique. Je veux dire, l'expérience de la désorientation dans le vide que je peux avoir quand je suis en train de suivre Sandra Bullock et d'avoir cette espèce de succession très très rapide entre un point de vue subjectif d'une personne en train de tourner dans l'espace et puis revoir la station au fur et à mesure, pour moi, sont des choses qui sont totalement cinématographique. On pourrait même rajouter dans le cas de Gravity l'utilisation, les premières utilisations du son Atmos intelligente qui renforce en fait cette désorientation ou cette expérience d'une réalité autre. Pour moi, on est dans des gemmes et là, on est effectivement dans du procédé hyper cinématographique. Si ça ne vous inspire pas une remarque, on parlait de l'effet produit en changeant la forme, et je sais que Francesco, donc, par des adaptations théâtrales ou d'installations multimédia, a expérimenté ce genre de choses.
Yes, yes. In Italy, we're running a small project. I call it cultural project because it's not a commercial project. We are very low on the budget, of course. But we do have a cross-media approach so that a written story is later translated into an audiobook, and then it gets adapted to the stage. And we had some plays in Rome bringing science fiction to the theater, which is strange for the people because they are shocked at the beginning and then they are curious because you don't often see themes of science fiction on the stage. It's very, very rare. So there's curiosity about this. Then we do also multimedia project, and we try to adapt the same story to an installation or, anyway, a short movie. But we do project the interfaces onto the screen, so the actor is not acting behind a green screen. He is actually moving and interacting with the interfaces, so he's not pretending, but if he does a mistake, it's there. So we have to shoot it again and again and again until he gets it right. So the projectors and the special effect, let's say the augmentation of these visual effects, are real, and they are not just anymore post-production effects. It's something that has been done before, and we are trying to do it with new technology. And the results, it's interesting, because the actor itself, he feels more into the scene. He's not acting, he's really living in the scene. He's really part of the scene, part of the movie, inside the interfaces. So that's it.
Je vais rebondir sur 2001 Odyssée de l'espace. Non, parce qu'il fallait que je réfléchisse, parce qu'il fallait que je me demande pourquoi le film me gênait quelque part. Et il y a une réponse qui s'est formée, qui est que je trouve personnellement que Kubrick manque de générosité. Je pense que c'est quelqu'un qui tourne avec la tête, qui a un grand sens de l'esthétique, et etc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne tourne pas avec le cœur. Et moi, c'est ça qui m'a gêné, moi, dans le film. Et je suis resté sur ce film-là, que je trouve formellement très beau, hein. Je suis resté sur le seuil de l'admiration. Et le seuil de l'admiration crée un décalage qui fait qu'on ne peut pas s'impliquer avec les... On ne peut pas être touché émotionnellement par le film. Voilà, c'est ça qui me gêne dans... Et Kubrick, dans la plupart de ses films, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est tellement parfait, c'est tellement esthétique, Barry Lyndon, etc., c'est avec les lumières, les bougies, tout ça, qu'on reste toujours un peu sur le seuil de l'admiration et qu'on ne rentre pas finalement dans le cœur des personnages. Et ce qui, pour moi, est l'essentiel d'une œuvre d'art, c'est de modifier quelque chose dans l'intérieur du personnage. Et je pense qu'avec Kubrick, ça ne marche pas chez moi. Mais bon, c'est personnel, hein. Mais ça n'empêche pas que je trouve le film très beau. Voilà.
I think The Shining is his only movie where I feel very
yes,
emotional.
Maybe, yes. Yeah. Yes. Shining, mais oui, Shining est probablement une exception. Ouais.
Bon, quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, un des axes sur lequel on voulait revenir, c'est la possibilité que la série télévisée offre un espace peut-être plus adapté ou plus intéressant pour la science-fiction. Et tu voulais intervenir ?
Bah, pas que pour la science-fiction, mais quand même, on s'aperçoit là depuis quelques années qu'il y a une espèce de... Je sais pas comment dire, pas de dérive, mais beaucoup de projets qui auraient été des films il y a 10 ans deviennent des séries télé, et la qualité globale des séries, moi j'ai l'impression qu'elle a explosé. Donc Black Mirror, c'est vrai, moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça super bien, mais il y a une autre série télé anglaise qui est peut-être moins ambitieuse, mais qui est très chouette, s'appelle Misfits. En tout cas, le début est vraiment très sympa. Je suis assez fan des séries HBO à l'exception de Game of Thrones, mais c'est vrai que souvent HBO, pour moi, c'est une espèce de synonyme de qualité minimum dans l'interprétation. Même quand je ne suis pas touché, j'ai pas été touché par True Detective, mais j'ai toujours trouvé ça très esthétique, très beau, très bien filmé, avec des vraies idées, en tout cas esthétiques. Après, les deux séries ne répondent pas aux questions que j'ai envie qu'elles répondent, mais ça, c'est un autre problème, c'est personnel. Et je trouve que, voilà, depuis quelques années, je me surprends à regarder IMDb plus les séries télé qui vont arriver que les films qui vont arriver, y compris des réalisateurs que je suivais, que j'adorais depuis des années. Alors en science-fiction, là je les ai pas suivis, il y en a eu plein, Sense8, etc. Mais visiblement ça bouge énormément.
Oui, tout à fait. C'est notamment pour le plus connu, c'est Steven Soderbergh qui a annoncé il y a quelques années qu'il arrêtait le cinéma histoire de créer un effet ou une espèce de choc. Et en fait, ce qu'il disait, c'est oui, j'arrête le cinéma, maintenant je vais faire de la télé parce que j'ai à peu près maintenant les mêmes moyens et que je peux faire des choses plus intéressantes. Je dirais qu'il y a quand même une tradition, alors qui n'est pas française pour le coup, de la série télé de science-fiction en Angleterre. Alors, on a évidemment l'impact culturel de Doctor Who qui est renouvelé et qui pour moi fonctionne pas vraiment. On en a une qui là a vraiment eu un impact sur le pays, qui a été Le Prisonnier, et qui a été une des premières comme ça, et là où justement ce que je trouvais extraordinaire avec Le Prisonnier, c'est la manière dont il a joué avec les attentes de son public, c'est-à-dire que tout le monde attendait dans Le Prisonnier, en fait, la suite de la série d'espionnage pour laquelle Patrick McGowan était extrêmement connu, et Et quand il a fait les derniers épisodes qui changent totalement la perspective et qui sont pour le coup très très science-fictionnels, il a provoqué un tel choc en fait qu'il a reçu des menaces de mort. Il a dû se cacher pendant un petit moment. Les gens étaient absolument furieux de ça. Et c'est une tradition qu'on a moins en France, parce qu'en Angleterre, sur la BBC, je veux dire, traditionnellement, ils ont adapté le jour des Trifides, ils ont adapté le guide du retard galactique à la radio, à la télévision. Et aujourd'hui, on a effectivement Black Mirror sur lequel... Éventuellement, je voudrais bien vous faire réagir, pour ceux qui l'ont aimé. Il me semble que Black Mirror, dans ce que j'ai vu à la télévision en science-fiction, ce que j'ai vu de plus intéressant et de plus pertinent depuis extrêmement longtemps, tout en étant en prise avec l'actualité.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une anthologie. Déjà, il change un petit peu la grammaire habituelle de la série télé, qui, avec une méta-histoire et puis des petits événements. Là, chaque épisode est une histoire et chaque épisode se penche sur un problème technologique ou souvent lié aux nouvelles technologies. Et justement, je trouvais que pour une fois... Et on a vu ça un petit peu aussi dans les Sherlock Holmes, les nouveaux avec Cumberbatch. Pour une fois, on était raccord avec la technologie. C'est-à-dire que la série télé n'avait pas 20 ans de retard ou 30 ans de retard. Ça parlait vraiment du lendemain, entre guillemets, des tablettes, des téléphones portables et d'Internet, réseaux de communication. Et j'aimais cette extrapolation, qui est très, très attachée à notre présent et qui, c'est juste un pas de plus. Et je trouve ça très fort. Et justement, c'est quelque chose qui, pour moi, manque énormément à la télévision française, fait par des Français.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Black Mirror, dont le titre est un hommage pas du tout déguisé en fait, à Philippe Dick et à sa fameuse citation de la Bible des Corinthiens, « Nous voyons le monde en un miroir obscurément », c'est une série, effectivement, il y a 7 épisodes pour l'instant, on va en avoir plus, par un gars qui s'appelle Charlie Brooker, qui avait déjà réalisé la série qui s'appelait « Dead Set », qui était une histoire de zombies, en fait, mais vue de l'intérieur d'un plateau de télé-réalité. Donc l'idée est de s'attacher justement aux nouvelles technologies médiatiques. Il y a notamment un épisode où l'ensemble des gens en fait ont une, ce qu'ils appellent une graine dans la tête qui enregistre en temps réel tout ce qu'ils font dans la journée et qui leur permet le soir en fait de consulter leur mémoire comme ils consulteraient leur téléphone portable. Et puis l'intérêt de Charlie Brooker, c'est qu'il le met vraiment de manière, déjà il traite des personnages, on est dans une série anglaise, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de séries américaines, on peut s'identifier aux personnages, ils ont l'air normaux. Hein, parce que beaucoup de séries américaines, quand on regarde le casting, on a l'impression d'un rêve de généticien nazi, donc c'est un peu plus difficile de s'identifier. Et le fait est, on a un épisode comme ça, où justement on a la vision d'une crise de jalousie ou de la jalousie d'un personnage, amplifiée par l'utilisation et le fait qu'il compulse de manière maladive sa propre mémoire.
Ça me rappelle le film Final Cut, non?
Oui, ça rappelle un peu Final Cut. Ouais. Ouais, mais... Allez-y.
But we are all naturally beautiful people. I don't know what you're talking about.
Yes, you're right.
We're jealous.
But I do think there is a golden age of television going on, at least in American television, partly driven by the fact of so many cable channels that niche shows can survive with a smaller audience than they ever could before. And you're allowed to tell long-form stories. If you look at Walking Dead, it's an epic story that's taking place over years that because it's running on a smaller cable channel, can keep going with the budget that they have and succeed. You know, and you've got great shows like you know, Breaking Bad. But a lot of the best work is going on in television because you have time to tell the story. In a way that you don't have with film. And you could tell really... Lost, the television show, fell apart at the end, but it was trying to be one of those interesting reality-bending science fiction shows. It just couldn't pay off all its promises.
Alors, pour revenir à la France, créer une série de science-fiction en France, c'est la croix et la bannière aussi. Parce que les producteurs nous demandent de venir les rencontrer et nous disent, voilà, vu ce que fait HBO, vu ce que font les télé américaines, ce serait bien d'avoir une série ambitieuse en France, d'imaginaire, etc. Et dès qu'on propose un projet, ils disent, ah non, c'est impossible. Essayez au cinéma. Ça, c'est pas possible pour nous. Parce que, voilà, donc il y a un double discours qui est très pénible parce qu'ils veulent faire des séries originales avec des auteurs d'imaginaire, de science-fiction, tout ça. Et dès qu'on propose vraiment de la science-fiction, c'est un voyage dans le temps, ce genre de choses, non, ce n'est pas possible. Donc, du coup, bah, on se retrouve avec Mimimati, quoi.
I'm sorry. Have you ever tried some kind of crowdfunded approach? I mean, now that I don't know if Netflix is open in France, but
oui.
They are looking for content, and we're seeing some interest also in a kind of, you know, diversity in their the show. So it's also a matter of being there at the right time at the right moment. But with the crowdfunding project, there are ways to limit the impact of a budget coming from a single producer, but you can include a lot of people, different kind of steps, and many projects are going. I mean, there are good things. Of course, it's not high budget, but you at least you can do these things that you really want to.
And it is interesting that, like, Amazon is producing Man in the High Castle. The fact that this show actually made it to some form of television is amazing. Now, they've done some terrible things to the adaptation, but for one of my favorite novels. But still, it's an amazing fact that show got on.
Finalement, après mûre réflexion, je vais éviter l'audiovisuel. Parce que la grande liberté, c'est le romancier qui l'a, quoi. Le mot est gratuit, ça c'est extraordinaire. Tous les effets spéciaux sont gratuits. On fait absolument ce qu'on veut. On n'a pas un producteur qui dit, bah non, ça c'est pas possible, parce que quand vous dites à un producteur, 1000 milliards de vaisseaux débarquèrent ce jour-là dans l'atmosphère, enfin dans le système solaire, il dit, ça fait beaucoup. Donc on va en supprimer quelques milliards, on va en garder un, et puis tant qu'à faire, on va prendre une voiture, parce que c'est beaucoup plus simple, ça existe. Et voilà qu'on se retrouve à faire un truc complètement ratiboisé. Dans le roman, vous faites ce que vous voulez, quoi. Personne ne vient vous, sauf l'éditeur de temps en temps. C'est l'espace de créativité absolue, parce que dans l'audiovisuel, on est dans un monde industriel. Et que donc on est obligé, et que l'auteur de scénario disparaît dans ce monde, parce que celui qui a le dernier mot, c'est le réalisateur. Et voilà, il faut garder l'esprit qu'on est dans un travail d'équipe, qu'au-dessus, il y a un producteur qui dit ça, ça ou ça. C'est Dieu au-dessus qui dit, ben non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et c'est extrêmement douloureux pour l'auteur, surtout de voir à quel point son scénario peut être complètement défiguré, transformé, réduit quasiment à néant, quoi. Donc le roman, c'est quand même magnifique.
Ça me rappelle cette anecdote d'Harvey Weinstein à un moment en pré-production du Seigneur des Anneaux, en train de demander à Jackson, mais il y a vraiment besoin de tous ces hobbits là, on va en virer deux, comme si en plus c'est ça qui allait baisser le budget. Mais c'est vrai que je voulais me le rappeler, que tout un bon film, il faut être honnête, un bon film, c'est un miracle. C'est un peu un miracle.
Exactement, parce que sur combien de films se font sur les projets, quoi. On va avoir un sur 50 peut-être. Des projets qui vont assez loin. On m'a demandé de faire une adaptation de Demain les chiens de Simac, rien que ça. C'était un producteur français qui avait acheté les droits parce que personne n'en voulait à Hollywood, parce que c'est parfaitement infaisable. Demain les chiens, c'est quand même, ça se passe sur 12 000 ans, c'est 8 contes, etc. C'est la fraternité animale qui se met en place. Donc c'est extrêmement difficile à adapter. Donc j'ai trouvé une forme d'adaptation de Demain les chiens. Et après, ils ont cherché, le producteur a cherché des cinéastes asiatiques, plutôt. Mais le budget était énorme, et donc le livre Demain les chiens tombé dans l'oubli, ça n'intéressait plus personne. Ouais. Donc l'audiovisuel, non, fatigant.
I tell writers that at some point in your career, someone will come to you with an envelope of cash and a puppy. And the puppy has a 99% chance of dying in 12 months. This is called a movie option. You can spend the cash, do not love the puppy, do not name the puppy, do not get attached to the puppy. The puppy is probably not going to make it. Just spend the money.
Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions.
Excusez-moi, je voulais poser une question qui peut paraître un peu naïve, mais pensez-vous par exemple que les dessins animés peuvent apporter quelque chose, notamment au cinéma de science-fiction, notamment au cinéma français de science-fiction? Vous avez mentionné le projet, après c'est film et dessin animé le projet, mais en tant qu'œuvre cinématographique, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant, ou peut-être une autre voie audiovisuelle qu'on pourrait imaginer, ou alors c'est tout aussi hermétique?
Je pense que c'est tout aussi hermétique, parce que tout dépend du diffuseur. Et le diffuseur craint que une animation de science-fiction détourne le public. Donc ça va être très difficile quand même à monter, quoi. Bon, après, il y avait le Club Dorothée avec les machins japonais, là. Donc, c'était un peu spécial, mais c'est une petite ouverture au genre de l'imaginaire. Mais c'est, tout est difficile en France parce qu'il y a une sorte de malentendu avec la science-fiction globale, quoi, globalement. La science-fiction n'est pas un genre noble pour la culture française, donc ça devient très compliqué. Et surtout, les gens sont persuadés que ça éloigne le public. Pourtant, quand on regarde les plus grands succès du cinéma de tous les temps, ce sont des films de science-fiction, c'est Avatar, c'est tout ça. Mais je sais pas, il y a une sorte de blocage culturel qu'on a énormément de mal à passer, et y compris sur le dessin animé, qui d'ailleurs revient presque aussi cher que des films à prise réelle maintenant, parce que c'est beaucoup fait en informatique. Et ça coûte quasiment aussi cher que voire plus cher, parce que c'est aussi, on paye des compétences, que le cinéma à prise réelle. Donc ça reste compliqué, je pense.
Par contre, le dessin animé a un avantage vis-à-vis du cinéma à prise réelle, c'est que au niveau des effets spéciaux, qu'il y ait 1000 milliards de vaisseaux ou qu'il y ait un seul vaisseau,
c'est vrai.
Ça coûte quasiment la même chose. Mais je pense que quand on est français, francophone, et qu'on veut développer des projets transmédia ou multimédia, maintenant, il faut prendre l'habitude de travailler en anglais, il faut faire traduire les choses en anglais, présenter dans le monde entier. Il ne faut plus avoir peur de contacter les gens étrangers. En France, c'est compliqué parce qu'il y a ce manque de culture dans les chaînes télé, et parce que le financement du cinéma et de la télévision, il est très particulier, le modèle français. Il est même unique au monde. Ça, c'est un peu l'envers du décor. Mais
il est consanguin, enfin, je vous dirais.
Oui, c'est même pas qu'il est consanguin, c'est juste que c'est les télés qui payent pour avoir des projets qui sont très grand public et qui doivent forcément, si ça coûte un peu cher, passer à 20h30 avec tel type de scènes qui ne peuvent pas exister dans tel projet, etc. etc. Les gens ne savent pas pourquoi, mais quand les séries télé américaines, l'épisode 12 est passé avant l'épisode 17 ou est passé après l'épisode 23 et tout, c'est souvent parce que dans l'épisode 12, il y a une scène qui ne correspond pas aux critères du CSA qu'il faut remettre après 23h. Donc voilà, on a des, chez les chaînes non payantes, on a... Et après, c'est Canal+. Donc il y a très très peu de choix pour financer. Et les projets de dessins animés et tout, bon, les Japonais, les Coréens ont montré depuis des années et des années qu'ils étaient tout à fait capables de faire de grands dessins animés de science-fiction. Je pense qu'il faut vraiment maintenant traduire en anglais, présenter les trucs en anglais. Ça coûte pas très cher de faire traduire et démarcher à l'international.
Oui, bonjour. The best science fiction cartoon going on right now in America is called Rick and Morty, which is started as a parody of Doc Brown and Marty from Back to the Future, but it's become something completely different, and it's one of the smartest science fiction cartoons, but it's also hilarious. It makes fun of science fiction, but it takes a lot of the concepts. It does Inception better than Inception. It does time travel, does alternate realities. It does every trope of science fiction so well because Dan Harmon, the creator of it, is a true science fiction fan. And so if you ever get a chance to see Rick and Morty, it's on the Cartoon Network in the United States, and hopefully maybe you can find it online. It's a great cartoon.
Oui, bonjour.
On m'entend ? Oui. Voilà, c'était déjà très très bien, franchement, j'ai adoré votre intervention. Dans ma Madeleine de Proust, il y avait le film Monde Ouest qui montrait la réalité, d'une façon. Il y avait aussi La Créature du Marais, quand il était passé à la télé, on avait eu les lunettes 3D dans les journaux télé, donc c'était impeccable. Pour la réalité, c'était complètement différent. J'avais pas le droit de le voir, je l'ai vu en 2D, caché derrière le fauteuil de mon père. J'ai eu le droit plus tard.
Ouais, il fallait changer de parents. Hein.
Ou de fauteuil.
Moi, ils m'ont laissé le voir, il n'y a pas de problème.
Et donc, par rapport à ça, et dans les films, il y a aussi le 8e passager qui a changé, qui a été en fait dans le noir, parce que l'épée de lumière était dans Star Wars. Ça tranchait avec la sortie de Star Wars qui était juste avant, et ça faisait du bien aussi. Et puis... au niveau des séries télé, tout à l'heure vous avez parlé des séries américaines. Toutes les séries télé que Spielberg fait aux États-Unis se cassent la figure. Elles ne marchent pas du tout. Il essaye de faire la science-fiction qu'il faisait au cinéma, à la télé, ça ne marche pas du tout. C'est beau, c'est super bien fait, mais ça ne marche pas. Il ne trouve pas son public. Dernièrement, j'ai vu un reportage. C'était Jodorowsky qui montrait la difficulté de monter Dune, oui, qui voulait monter avant.
Jodorowsky's Dune qui est passé ici il y a 2 ans.
Voilà, et quand il a montré ça, on a vu, c'est une mise en abîme de tout le cinéma qui justement aime à Madeleine de Proust. Et à ce moment-là, on voit que toutes les difficultés dont vous avez parlé pour monter un film, un scénario, trouver les acteurs. Donc je le conseille à tout le monde. Et en série anglaise, je tiens à signaler, vous avez dit Black Mirror, je tiens à signaler aussi Utopia, qui est une des meilleures séries esthétiques et c'est aussi une affaire de réalité. Voilà, je l'ai tout dit.
Merci pour avoir mentionné Monde Ouest, que j'ai oublié, qui était un film qui avait marqué à l'époque aussi, avec Yul Brynner. Oui.
Et la toute dernière question, rapide, parce qu'on est déjà en retard.
Plutôt des remarques au passage. D'une part, une remarque, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites qui sont générationnelles, c'est-à-dire que moi, né beaucoup plus tôt, je n'ai pas eu de film de SF quand j'étais gamin pour me marquer. Mais donc tous les films dont on a parlé, je les ai découverts alors que je connaissais déjà la SF littéraire et j'ai eu un œil totalement différent sur eux. Mais ça, c'était la remarque. Et sinon, je voulais contredire deux ou trois choses qu'a dit Pierre sur la situation du cinéma français en disant qu'il y a quand même des contre-exemples à ce qu'il a dit. Avec ce qu'a pu faire Bilal ou ce qu'a pu faire Tardy, et en particulier la sortie à venir de Avril le monde truqué.
Eh bien, merci pour ces remarques finales. Nous laissons la place à la prochaine table ronde. Merci aux intervenants. Merci à vous. Excellente journée sur le festival.
Merci. Okay.